Les actions, bienvenue dans le temple de l'actionnariat. Imaginez que vous achetiez une maison avec un ami. Elle coûte 200 000 euros et votre participation est de 80 000 euros. À qui appartient la maison? Elle n'appartient ni complètement à votre ami, ni complètement à vous. Elle appartient même en réalité 60% à votre ami et 40% à vous. Mais alors, à qui appartient le titre de propriété de la maison? Qui a le droit de la vendre, de décider de l'habiter, de la louer ou d'y effectuer des travaux? Comprendre le principe des actions en un clin d'œil. Au lieu de n'avoir qu'un seul titre de propriété, il suffit d'en créer un grand nombre et de vous les répartir entre votre ami et vous. Le nombre exact de titres n'a pas d'importance. Vous pourriez décider d'en émettre 10, 100 ou même 1000. Tout ce qui compte, c'est que la répartition de ces titres corresponde à votre participation respective dans l'achat de la maison. 40% pour vous, 60% pour votre ami. Si vous décidez d'émettre 100 titres, chacun d'entre eux sera numéroté, titre numéro X sur 100, et le fait d'en posséder 40 indiquera que vous êtes propriétaire de 40% de la maison. Vous l'aurez compris, remplacez la maison par une entreprise et vous voici en présence de la manière dont les premières actions de cette dernière apparaissent. Vous n'avez pas acheté une maison, ni une entreprise d'ailleurs, vous avez créé une entreprise. Les 200 000 euros ont été virés sur un compte au nom de la société et les 40 actions que vous possédez, tout comme les 60 que possède votre ami, ne servent à rien d'autre qu'à confirmer que vous êtes le propriétaire de 40%, 60% pour votre ami, de l'entreprise. Entreprise qui est pour le moment composée uniquement d'un compte en banque sur lequel 200 000 euros, enfin la promesse d'une mise à disposition de 200 000 euros en billets, vous connaissez la chanson maintenant, sont inscrits. Entreprise privée versus entreprise cotée. Attention! Une entreprise qui émet des actions n'est pas nécessairement cotée en bourse. L'entreprise dont la valeur de départ est de 200 000 euros dans l'exemple précédent est dite privée par opposition au terme de cotée en bourse. En effet, les entreprises cotées ont une obligation de transparence qui les oblige à dévoiler des informations que certains préféreraient garder pour eux. D'où le terme d'entreprise dite privée, entendez, qui n'ont pas besoin de divulguer quoi que ce soit sur leur fonctionnement ou leurs finances quand elles ne sont pas cotées. Cela dit, toutes les entreprises, même celles qui ne sont pas cotées, ont des titres de propriété, sans quoi elles n'auraient pas de propriétaire. Ainsi, indépendamment d'une éventuelle cotation boursière, tous les propriétaires d'entreprises possèdent des actions et toutes les entreprises en émettent. Quel est le prix des actions de l'entreprise de mon exemple? La réponse est simple. Chacune des 100 actions vaut 200 000 euros divisé par 100 égale 2 000 euros. En effet, la somme des actions reflète la valeur de l'entreprise, puisque les acquérir toutes permet de devenir propriétaire de l'entreprise. Maintenant, imaginez que votre ami et vous ne soyez pas d'accord sur la manière dont l'entreprise doit être gérée. Selon vous, les 200 000 euros doivent être utilisés pour se lancer dans la réalisation du projet numéro 1, tandis que votre ami opte pour le projet numéro 2. Comment trancher ce désaccord? S'il est évident que vous pouvez résoudre cette divergence d'opinion de la manière qui vous convient, légalement, c'est votre ami le chef. Pourquoi? Parce qu'il contrôle plus de la moitié du capital de l'entreprise. Le capital, c'est le montant investi par les actionnaires, les propriétaires, qui a permis de se répartir les actions. Il s'agit ici à nouveau du capital comptable dont nous avons déjà parlé dans la première partie. Autrement dit, le capital contrôlé correspond au nombre d'actions possédées par rapport au total disponible. Dans mon exemple, le capital de l'entreprise est de 200 000 euros et votre ami en contrôle 60%. Le projet numéro 2 est donc validé et vous vous lancez dans l'achat de machines diverses et de matières premières pour des montants respectifs de 150 000 euros et 50 000 euros. L'entreprise ne possède donc plus 200 000 euros sur un compte, mais bien des machines et des matières premières dont la valeur est de 200 000 euros. Admettons que les machines, associées au travail de votre ami et de vous-même, permettent de transformer les matières premières en des biens dont la vente vous rapporte 100 000 euros. L'entreprise possède désormais 150 000 euros de machines, plus 100 000 euros sur son compte en banque. Félicitations, votre entreprise vaut désormais 250 000 euros, soit 25% de plus que lors de votre investissement initial. Quelle est alors la valeur de vos actions? Puisqu'il existe 100 actions et que, à la vue de ce qu'elle possède, l'entreprise vaut 250 000 euros, chaque action vaut 250 000 euros divisé par 100, 2500 euros. Notez que je simplifie ici notoirement la méthode d'évaluation des actions. En réalité, même s'il faut évidemment tenir compte de ce que l'entreprise possède, la valeur de cette dernière dépend aussi de son potentiel de création de richesses. De ce point de vue, à peu près n'importe quelle valorisation est justifiable. Valeur nette. Imaginez la situation suivante. Vous montez une entreprise sur le compte duquel vous déposez 50 euros. Vous possédez la seule action de l'entreprise et son prix est de 50 euros. Puis, votre entreprise s'endette auprès d'une banque pour un montant de 25 euros. Quelle est alors la valeur de votre entreprise? Si on s'intéresse à ce que l'entreprise possède, 75 euros sur un compte, on serait tenté de dire qu'elle vaut 75 euros, mais ce n'est évidemment pas le cas. La valeur de l'entreprise, c'est le prix à payer pour en devenir propriétaire, donc pour acheter l'unique action que vous possédez. Si la valeur d'une entreprise tient évidemment compte de ce qu'elle possède, il ne faut pas oublier pour autant de retirer le montant des dettes. Votre entreprise a donc toujours une valeur de 50 euros après votre endettement. L'émission d'actions pour une entreprise, entrée dans le jeu de l'actionnariat. Parce que votre entreprise fonctionne bien, vous décidez de vous lancer dans l'achat de nouvelles machines pour un montant de 450 000 euros et de matières premières pour un montant de 200 000 euros. Pour simplifier mon exemple, je pars du principe que vous ne recrutez aucun salarié. Le problème, c'est que votre projet à 650 000 euros ne pourra pas être financé par la monnaie disponible sur le compte de l'entreprise, 100 000 euros uniquement. Il vous manque 550 000 euros. Que faire? Vous avez deux solutions, émettre des actions ou emprunter. Puisque nous parlons d'actions, admettons que vous choisissiez cette option. Puisqu'une action vaut 2 500 euros, il vous faut émettre 550 000 divisé par 2500, 220 nouvelles actions pour financer votre projet. Comment allez-vous vous y prendre? L'une des solutions consiste à acheter, votre ami et vous, ces nouvelles actions. Mais encore faut-il en avoir les moyens. L'autre solution consiste à parler de cette émission à vos proches dans l'espoir que l'investissement puisse les intéresser. Cela dit, puisque chaque action vaut 2500 euros, personne ne peut investir un montant inférieur à cette somme. Peut-être que vos nouvelles actions ne trouveront pas preneur à cause de ce prix trop conséquent. La solution à ce problème consiste en une légère modification comptable. Il est en effet possible de diviser le prix des actions par 100 afin de porter le prix d'entrée au capital de l'entreprise à 25 euros au lieu de 2500 euros. La conséquence de cette modification est qu'il faut multiplier par 100 le nombre d'actions. Cela signifie deux choses. Premièrement, vous n'émettez plus 220 nouvelles actions, mais 220 multiplié par 100 égale 22 000. Deuxièmement, parce que toutes les actions doivent toutes valoir la même chose, vous et votre ami ne possédez pas collectivement 100 actions valant 2500 euros chacune, mais bien 10 000 actions. Valant 25 euros chacune. J'espère que vous comprenez que le nombre d'actions n'est qu'une spécification comptable qui peut varier à l'infini en fonction des besoins. En effet, ce qui compte, c'est la valeur de l'entreprise. Multiplier le nombre d'actions par 100 revient à diviser le prix de l'action par le même montant. De plus, même si les actions étaient représentées par des morceaux de papier, il serait toujours possible de les remplacer. Pour finir, au même titre que la monnaie scripturale inscrite sur votre compte bancaire, les actions sont de nos jours des possessions électroniques. Admettons que vous ayez trouvé preneur pour vos 22 000 actions à 25 euros. Que se passe-t-il? La valeur de votre entreprise vient de faire un bond. De 250 000 euros, 100 000 euros de monnaie plus 150 000 euros de machines, votre entreprise vaut désormais 800 000 euros. 100 000 euros de monnaie plus 150 000 euros de machines plus 550 000 euros de monnaie fournie par les acheteurs des nouvelles actions. Si un seul et unique investisseur s'est porté acquéreur des 22 000 actions, celui-ci possède désormais 22 000 actions sur un total de 32 000. Cela signifie que c'est lui le décideur, puisqu'il contrôle 22 000 divisé par 32 000, 68,75% du capital de l'entreprise. Votre ami en contrôle quant à lui 6 000 divisé par 32 000 égale 18,75% et vous, les 12,5% restants. Même en considérant que l'émission n'a pas fait apparaître d'actionnaire majoritaire contrôlant une plus grosse part de capital que votre ami et vous, vous avez tout de même pu perdre le contrôle de l'entreprise. En effet, si par exemple 10 investisseurs achètent 2200 actions chacun et qu'ils s'unissent pour faire bloc contre vous dans les prises de décision, alors ils auront la majorité, 22 000 actions contre seulement 10 000 pour votre ami et vous. Autrement dit, être actionnaire majoritaire, c'est-à-dire être le ou les actionnaires qui possèdent individuellement le plus d'actions, ne vous garantit pas de contrôler les décisions prises collectivement par tous les actionnaires. Il faut absolument contrôler plus de 50% de l'ensemble des actions, ici 16 000 actions, pour contrôler avec certitude l'entreprise. Pourquoi donc devenir actionnaire? La réponse est très simple. Les actionnaires décident de ce que l'entreprise doit ou ne doit pas faire. Le président-directeur général est nommé par les actionnaires. Même si la réalité des luttes de pouvoir au sommet des entreprises est complexe, ce sont en théorie les actionnaires qui contrôlent et décident de tout. Ainsi, être actionnaire signifie avoir le droit de participer aux prises de décision via un droit de vote dont le poids est directement corrélé au nombre d'actions détenues. Or, l'une des décisions que les actionnaires prennent, c'est la manière dont les bénéfices sont utilisés. Réinvestir les bénéfices, s'en servir pour distribuer des primes aux employés, les mettre de côté pour plus tard ou les distribuer sous forme de dividendes, ce sont les actionnaires qui décident. Pour résumer, les actions permettent aux épargnants d'acheter à des entreprises des titres de propriété qu'elles émettent elles-mêmes. Ainsi, devenir actionnaire d'une entreprise signifie confier de la monnaie à une entreprise en échange d'un ou de plusieurs titres de propriété. Également, devenir actionnaire, propriétaire, donne le droit de participer aux prises de décision concernant la gestion de l'entreprise, ce qui inclut l'utilisation des bénéfices, doivent-ils être investis, stockés ou distribués sous forme de dividendes. Le nombre d'actions multiplié par leur prix permet d'obtenir la valeur totale de l'entreprise, valeur qui dépend de ce que l'entreprise possède, de son niveau d'endettement et de son potentiel de création de richesses. Le grand jeu des marchés financiers et leurs acteurs. Les marchés financiers doivent résoudre deux problèmes. Comment connecter des centaines de millions d'épargnants avec des dizaines de milliers d'entreprises et des dizaines d'États qui émettent des actions et des obligations? Qu'il s'agisse de remplacer des produits financiers par d'autres ou bien de s'en débarrasser pour retrouver de la monnaie, comment permettre aux épargnants de changer d'avis une fois qu'ils ont investi sur les marchés? La réponse à ces deux problèmes passe par la mise en place de deux marchés très différents, le marché primaire, du neuf, et le marché secondaire, de l'occasion. Le marché primaire, le marché financier du neuf. Le marché primaire est le lieu de naissance des actions et des obligations. Il permet de connecter les émetteurs de produits financiers avec les épargnants. Les fonds d'investissement, conseiller des épargnants. Étant donné le nombre d'entreprises et d'États, ainsi que la quantité de données à analyser afin de se forger une opinion sur le prix d'une action, valeur de l'entreprise, ou sur celui d'une obligation, risque de non-remboursement par rapport au moment de l'émission, il est évident que le rôle d'investisseur nécessite du temps et des outils auxquels tout le monde n'a pas accès. Ainsi, la plupart des agents économiques qui possèdent de l'épargne placent leur monnaie dans des tirelires géantes appelées fonds d'investissement. Les OPCVM, SICAV et autres FCP sont des fonds d'investissement gérés par des professionnels de la finance, on parle de gérants, qui travaillent dans des sociétés de gestion. Chaque société de gestion, vous en connaissez sûrement certaines, BlackRock, Allianz, Amundi, BNP Paribas Asset Management, possède en général plusieurs fonds avec des thématiques d'investissement différentes. Les gérants sont donc chargés d'utiliser l'épargne placée dans la tirelire dont ils sont responsables, afin de sélectionner puis d'acheter des produits financiers. Cette sélection s'effectue en général en fonction de deux critères. La durée de l'investissement, 5 heures, 5 jours, 5 ans. L'espoir de gain, risque de perte, voulu par l'épargnant. Pour ceux du fond de la classe, le risque de perte maximal correspond aussi au potentiel de gain maximal. En finance, tout fonctionne pour que les plus gros risques soient toujours associés aux plus gros gains potentiels. Notez qu'en général, les particuliers passent par un intermédiaire, leur banquier ou conseiller en gestion de patrimoine, pour atteindre les sociétés de gestion et donc les fonds d'investissement. Ces fonds se rémunèrent de deux manières. Par le biais de frais de gestion, abonnement, que les épargnants doivent payer tous les ans et qui se calculent en fonction du montant confié, en général entre 1 et 3% de la somme sous gestion, par le biais de commissions sur la performance réalisée, les montants sont très variables en fonction des fonds. Et il existe enfin plusieurs types de fonds d'investissement. Les fonds classiques, que l'on appelle « asset managers », qui collectent l'épargne des particuliers et des entreprises, ce sont les fonds les plus accessibles. J'y inclus les fonds de pension dont le rôle est de faire fructifier l'épargne des travailleurs dans le but de leur permettre de toucher une pension de retraite, ainsi que les assureurs qui gèrent l'assurance vie, placement préféré des Français, car non, l'assurance vie n'est pas une assurance décès, mais bien un placement boursier. Les hedge funds, ou fonds spéculatifs, qui ne sont pas forcément plus spéculatifs que les autres, mais sont réservés à des épargnants plus fortunés et à des entreprises qui s'y connaissent davantage. Ces fonds proposent des méthodes d'investissement, stratégies, très diverses, sont soumis à des règles moins strictes en termes de transparence vis-à-vis des épargnants et coûtent plus cher en frais de gestion et en commission que les fonds classiques. Leur méthode de financement peut aussi inclure de la dette afin de permettre un effet de levier, nous en parlerons plus tard. Les fonds souverains, qui sont spécialisés dans la gestion de l'épargne des États. Les plus importants sont, sans grande surprise, associés à des pays producteurs de pétrole, comme la Norvège, les Émirats arabes unis, le Koweït ou encore l'Arabie saoudite. Mais on retrouve aussi parmi les plus grands fonds souverains ceux de la Chine, de Hong Kong ou de Singapour. Les banques d'investissement, conseillers des émetteurs. Plusieurs difficultés obligent également les entreprises et les États à passer par des intermédiaires. Tout d'abord, les produits financiers sont extrêmement régulés. Émettre des actions ou des obligations nécessite de passer par un processus juridique drastique. De plus, estimer la valeur d'une entreprise, même s'il s'agit de celle que l'on possède ou que l'on gère, est extrêmement complexe. En effet, dans mon exemple un peu plus avant, je me suis contenté d'expliquer que la valeur d'une entreprise se calculait par rapport à la valeur de ce qu'elle possède et de ce qu'elle doit, ce qui représente déjà un calcul plutôt approximatif. Mais en réalité, les financiers réalisent également une estimation du potentiel de bénéfices futurs, ce qui ajoute un degré non négligeable d'incertitude et de complexité. De même, estimer le risque de non-remboursement d'une obligation est, du point de vue d'une entreprise ou d'un État, un exercice tout aussi périlleux qui nécessite l'aide d'un conseiller. Enfin, il reste le problème de la vente des nouveaux produits financiers. Une fois les contrats dressés, les valeurs d'entreprise estimées et les risques de non-remboursement évalués, encore faut-il contacter les nombreux fonds d'investissement afin de les convaincre d'acheter ces nouveaux produits financiers. Toute cette partie commerciale est difficilement réalisable par les entreprises ou les États eux-mêmes, car il faut être en contact constant avec les fonds d'investissement pour être un minimum au courant de l'état des marchés. En effet, en plus des fonds qui ouvrent ou ferment, il faut se tenir au courant des classements, des meilleurs fonds qui évoluent, des stratégies qui se transforment, des montants sous gestion qui fluctuent et des gérants qui changent de boutique. Pour toutes ces raisons juridiques, techniques et commerciales, les entreprises et les États font appel à des entreprises spécialisées pour les aider à émettre des actions ou des obligations. Vous l'avez peut-être deviné, ces entreprises sont appelées banques d'investissement. Notez que les banques d'investissement possèdent toujours une division société de gestion, gérant de nombreux fonds d'investissement. Ainsi, vous pouvez confier votre épargne à BNP Paribas Asset Management, Société Générale Asset Management, ou encore Amundi, propriété du Crédit Agricole. Ou pas. Le marché primaire en prise avec l'économie réelle. Finalement, d'un côté du spectre se trouvent les fonds d'investissement qui représentent les épargnants et, de l'autre, les banques d'investissement qui conseillent les émetteurs. Ce marché financier qui connecte les agents économiques, particuliers, entreprises ou États, qui ont de l'épargne avec les agents économiques qui en ont besoin, s'appelle le marché primaire. C'est à ce marché que l'on fait référence quand on dit qu'une entreprise ou qu'un État lève des fonds sur les marchés financiers. C'est le seul marché qui connecte directement la monnaie des épargnants avec le besoin en financement des autres agents économiques. Résumons le rôle du marché primaire dans l'économie réelle. Les marchés financiers sont comme un énorme double réservoir au sein duquel on retrouve les fonds d'investissement. D'un côté A, les marchés stockent de la monnaie, c'est l'épargne confiée aux fonds par les agents économiques. Et de l'autre, B, ils stockent des produits financiers. Ce sont les actions et obligations émises par les entreprises et les États. La monnaie entre dans le réservoir A quand certains agents économiques confient la gestion de leur épargne à des fonds d'investissement. Les fonds d'investissement présents sur les marchés sont nombreux et proposent des stratégies différentes. La monnaie qui sort du réservoir A pour s'en aller vers les États et les entreprises, financement de l'économie réelle, ne peut se faire qu'en échange de l'émission de nouvelles actions ou de nouvelles obligations. La monnaie des épargnants se retrouve entre les mains des entreprises et des États qui l'utilisent pour payer des salaires et acheter des biens et des services. Les nouvelles actions et obligations émises par les États et les entreprises sont injectées dans le réservoir B des marchés en échange de monnaie, achats par les fonds d'investissement. Le financement des entreprises et des États par les fonds d'investissement, moyennant l'émission de nouvelles actions et obligations, correspond au marché du neuf des produits financiers. On parle de marché primaire. Le marché primaire fonctionne grâce aux conseils et aux services commerciaux des banques d'investissement.